Jeudi 8 avril, rapporte un contemporain, Mademoiselle d'Orléans arrive en son logement des Tuileries, avec grand applaudissement des Parisiens. Vendredi 9, tout le monde va visiter Mademoiselle. Elle écrit de son côté, « Dès que je fus à mon logis, tout le monde me vint voir, les plus grands et les plus petits du parti. Les 3 jours que je fus à Paris, ma maison ne se désemplit pas. » Un second petit tour aux Tuileries, la semaine d'après, n'ayant pas été moins triomphant. Mademoiselle se sentit très encouragée dans son projet, devenu public, d'épouser le roi, la capitale du royaume, l'y convier par ses acclamations. Dans le même temps, il se jouait à Saint-Germain une comédie dont personne n'était la dupe. Les chefs de la fronde, généraux, belles dames, parlementaires, représentants de tous les corps constitués et de toutes les classes, jusqu'aux plus humbles, s'en venaient les uns après les autres assurer la régente de leur fidélité. Car, dit mademoiselle, contre le roi, je ne vis jamais personne qui avoua d'en avoir été. C'est toujours contre quelque autre. Tout le monde était reçu. Le boutiquier, aussi gracieusement que le duc et père. Anne d'Autriche avait l'air de croire tout le monde, et l'on se séparait avec des démonstrations de joie et d'amour. Le seul personnage qui manqua son entrée fut Madame de Longueville. Elle se troubla, rougit, balbutia, et sortit furieuse contre la reine, qui n'avait pourtant rien fait pour l'intimider. Saint-Germain rendait à Paris ses visites. Condé fut hué. Les Parisiens avaient sur le cœur la destruction de leur maison de campagne et de leur jardin de la banlieue. Le reste de la cour fut bien reçu. Et quand la reine apparut en personne à la porte Saint-Denis, ramenant son fils, 18 août, l'enthousiasme tint de la crise de nerfs. Les vivats couvrirent le canon de la ville, qui exécutait une salve à quelques pas de là, au grand dépit des échevins. On ne s'aperçut même pas qu'ils tiraient. Les gens du peuple passaient la tête par la portière du carrosse royal et faisaient leurs remarques à haute voix. Le succès de la journée fut pour Mazarin. Les femmes le trouvaient beau et le lui disaient. Les hommes lui donnaient des poignées de main. Il fit du tort à mademoiselle, qui fut délaissée et trouva le temps long.
« Jamais, dit-elle, je ne me suis tant ennuyée. »
La belle mine de son amie avait rendu à la reine l'estime des halles. La première fois qu'Anne d'Autriche ressortit du palais royal, les haranguèrent
se jetèrent tout en foule sur elle et lui demandaient pardon avec tant de cris, de larmes et de transports de joie.
Que la reine en demeura abasourdie. Paris avait fait les avances. La royauté les accepta et le notifia à la France en s'invitant à l'hôtel de ville. À défaut de journaux pour parler du pays, un bal, suivi d'un feu d'artifice à sujet symbolique, remplaça nos articles officieux. La fête eut lieu le 3 septembre, avec une grande magnificence. La ville de Paris a toujours aimé à bien faire les choses. Le petit Louis XIV fut très admiré et sa grande cousine presque autant. « Le roi, dit le procès-verbal officiel, mena mademoiselle à la première courante, avec tant de bienséance et de mignardise qu'on l'eût pris pour l'amour dansant avec l'une des grâces. » Les invités de l'hôtel de ville, bourgeois petits et gros, avec leurs femmes et leurs filles, contemplaient ce spectacle du haut de leur tribune, sans être admis à se mêler à la cour. Anne d'Autriche, de son côté, considérait les tribunes, sans pouvoir sceller sa surprise. Ces bourgeoises étaient un luxe égal à celui des plus grandes dames. Leurs toilettes sortaient de chez la même faiseuse. Leurs diamants étaient aussi beaux. Depuis plus de 30 ans que la reine assistait à toutes ces fêtes officielles, c'était la première fois qu'elle voyait cela. Elle ne comprit pas l'avertissement et qu'il fallait compter désormais avec la bourgeoisie française. Quand Paris eut bien pleuré de tendresse, il redevint mécontent et agité, comme devant. Il y avait des soulèvements en province. Condé se montrait impérieux et exigeant. Il essaya de se débarrasser de Mazarin, en donnant un autre favori à la reine, le marquis de Jarzay, un fat et un étourneau, qui crut qu'il suffisait de se faire friser et de payer d'audace pour réussir. Anne d'Autriche le mit à la porte et en voulut mortellement à Condé. Ce grand général ne faisait que des sottises en politique. Rien ne rassemblait moins au Condé des batailles que le Condé de la vie civile. Le premier était un inspiré qui paraissait devant son armée en dieu de la guerre, impétueux et terrible, jamais troublé. Alors, son esprit se développait. Il était capable de donner 100 ordres à 100 personnes différentes, au Parlement ou avec des chefs de parti. Monsieur le prince, le héros, n'était plus qu'un nerveux qui n'avait ni sang-froid ni esprit de suite. Éclatait de rire quand il y avait de quoi pleurer, se fâchait quand il aurait fallu rire, n'avait de fixe en lui qu'un immense orgueil et l'immodération invincible, par laquelle il fut précipité dans l'abîme. Personne n'avait autant d'esprit et personne n'était aussi bizarre dans ses goûts et dans sa conduite. Il adorait les lettres et sanglotait à Sina, mais le Polexandre de Gomberville lui paraissait admirable. Il s'évanouissait en disant adieu à Mademoiselle du Vigan et l'oubliait tout d'un coup, quelques jours après. Bref, un grand génie avec une fêlure, un être compliqué à contraste et à contradiction, mais singulièrement intéressant. Au physique, un prince efflanqué et mal peigné, poussiéreux, avec un visage d'oiseau de proie et un regard d'aigle, difficile à supporter. L'été s'achevait à peine qu'il avait fait signer au cardinal, 2 octobre, la promesse de ne rien faire sans sa permission. La partie était belle pour la maison d'Orléans. Elle pouvait vendre très cher à la couronne son appui contre l'autre branche cadette. Madame et mademoiselle, si rarement d'accord, poussaient monsieur à ne pas laisser échapper l'occasion. On répandait à Paris une chanson où la France le suppliait de la défendre contre Condé. Gaston répondait à la France. « Je veux dormir, je naquis en dormant. J'y veux passer ma vie. Jamais de m'éveiller, il ne me prit envie. Toi, ma femme et ma fille, y perdez vos efforts. Je dors. » Monsieur tremblait de peur, écrit Reiss. Il y avait des moments où il était impossible de le faire aller au Parlement, même escorté de Condé. L'on appelait cela les accès de la colique de son Altesse royale. Un jour, qu'en se mettant à plusieurs, on l'avait mené jusqu'à la Sainte-Chapelle, il tourna les talons et se sauva chez lui, avec la précipitation et les grimaces d'un client de Monsieur Purgon. Mademoiselle se désolait. Le moyen de rien entreprendre, la deuxième fronde, celle des princes, se prépara et s'engagea sous ses yeux, sans qu'elle eût part à rien. Elle vit, en simple spectatrice, Mazarin entourer son adversaire de pièges savants et de se rapprocher de la vieille fronde. Condé marchait vers une sorte de dictature. Les Parisiens allumaient des feux de joie à la nouvelle de son arrestation, 18 janvier, et un grand parti, commandé par des femmes, se levait pour lui dans la France entière. Elle assista, dans l'inaction, à l'apogée du pouvoir de son sexe dans notre pays. Madame de Longueville, réfugiée à l'étranger, après des aventures retentissantes, avait signé un traité d'alliance contre la France avec le roi d'Espagne et le maréchal de Turenne. On croit rêver. Madame de Chevreuse et la princesse Palatine étaient à Paris sur le pied d'hommes d'État consultés et obéis. Les duchesses de Montbazon et de Châtillon avaient chacune leur sphère d'action, où elles se rendaient redoutables. D'autres, à la douzaine et d'un bout à l'autre du royaume, s'ingéraient dans les affaires publiques. Il n'y avait pas, jusqu'à la femme de Condé, cette petite princesse, si effacée, ne comptant pour personne, pas même pour son mari, qui ne fut passé tout d'un coup au premier plan, en soulevant Bordeaux. Cependant, la grande mademoiselle se traînait par ordre derrière la cour, qui allait d'une province à l'autre étouffer les insurrections. Le seul temps utilement employé de toute cette période fut celui qu'elle passa à avoir la petite Vérole, si heureusement qu'elle en fut embellie.
Devant, j'étais fort couperosée, et cela m'emporta tout.
Le 4 juillet 1650, elle dut partir avec la cour, qui allait assiéger Bordeaux. Avant de se mettre en route, elle avait commis une action dont elle n'a garde de se vanter dans ses mémoires. L'alliance de Madame de Longueville avec l'Espagne nous avait valu l'invasion de l'archiduc Léopold et de Turenne. Mademoiselle n'eut pas honte d'envoyer ses félicitations aux envahisseurs. Elle écrivit à l'archiduc
« Vos troupes sont plus capables de causer de la joie que de donner de la crainte. Toute la cour juge en bonne part votre arrivée en France et vos entreprises ne passeront jamais pour suspectes. Faites tout ce qu'il vous plaira. Les victoires que vous remporterez en France sont des victoires de bienveillance et d'affection. »
Il faut voir dans les documents de l'époque ce qu'étaient ces victoires d'affection, à quel degré de férocité bestiale en arrivaient les armées régulières au XVIIe siècle. Devant ces abominations, les manœuvres des grandes frondeuses pour multiplier les invasions et les soulèvements perdent leur air trompeur de romans héroïques, pour devenir de laide réalité. On prend en horreur ces fausses héroïnes, ces femmes sans beauté et d'imagination pervertie qui badinaient agréablement sur la guerre civile entre deux jeux de société, mettaient leur vanité à rendre un honnête homme criminel et trouvaient élégant d'attirer de la souffrance sur quelques pauvres villages ignorés. Madame de Longueville disait
« Je n'aime pas les plaisirs innocents. »
Quant aux galants qui exploitaient l'influence des Amazones de la Fronde, ils sont écœurants. La cour arriva le 1er août à Libourne et y séjourna un mois. Il faisait très chaud, la reine restait renfermée et tenait sa nièce auprès d'elle à faire de la tapisserie. Mademoiselle se dévorait. Elle était quasi prisonnière et tourmentée par le regret d'avoir fait une fausse démarche, dont les Parisiens allaient se moquer quand ils l'apprendraient. L'empereur était redevenu veuf. Mademoiselle lui avait renvoyé Saujon pour arranger leur mariage. Elle n'avait pas renoncé au roi pour cela, et un ami lui avait fait sentir le ridicule de poursuivre ainsi deux maris à la fois. L'un barbon, l'autre enfant, et ne voulant d'elle ni l'un ni l'autre. Mademoiselle faisait des vœux pour que la guerre civile se prolongeât et empêchât les Parisiens de s'occuper d'elle, lorsque brusquement, la scène changea. Monsieur s'était réveillé. Bresse avait fait ce miracle. Secoué par lui, Gaston prenait le rôle de médiateur entre les parties. À peine sut-on à Libourne qu'il devenait aménagé, que sa fille fut comblée d'attention. La reine lui soumettait les dépêches. Mazarin affectait de dire très haut qu'il fallait la consulter, surtout. Le reste de la cour la traitait avec déférence, due à une puissance. Mademoiselle reçut ce premier sourire de la fortune avec joie, mais sans étonnement. Les choses rentraient dans l'ordre, rien de plus. Elle fut modérée dans la victoire. Un jour que le cardinal s'étendait sur son affection pour elle et son désir de la voir impératrice, elle le laissa parler longtemps et se contenta de lui dire enfin
Il n'y a pas de bassesse dont vous vous avisiez ce matin.
Mazarin ne s'en troubla pas autrement. Quelques semaines après, Mademoiselle confiait à Lenné que le cardinal
lui avait promis 100 fois de lui faire épouser le roi, mais qu'il était en fourbe.
La reine disait
« Mademoiselle devient furieusement frondeuse ».
C'était la vérité. Mademoiselle avait maintenant ses courriers de cabinet qui lui apportaient le mot d'ordre de Paris. Sa cour était plus grosse que celle de la régente. Quand Bordeaux fut pris, les Bordelais n'eurent Dieu que pour la fille de monsieur.
Pendant le séjour de 10 jours que la cour y fit,
écrit Mademoiselle,
personne n'allait chez la reine, et quand elle passait par les rues, l'on ne s'en souciait guère. Je ne sais si elle avait fort agréable d'entendre dire que ma cour était grosse, et que tout le monde ne bougeait de chez moi pendant qu'il en allait si peu chez elle.
Tandis que la régente se morfondait dans la solitude, son ministre recevait des avanies des Bordelais. La reine en fut malade de chagrin et quitta la ville le plus tôt possible. La cour s'arrêta quelques jours à Fontainebleau avant de rentrer à Paris. Monsieur y vint, s'emporta contre Mazarin dès la descente du carrosse et fut boudé dans sa chambre sans avoir voulu voir la reine. L'heure était critique pour le Premier ministre. Il lui restait 2 ressources, acheter S en le faisant cardinal ou gagner la grande mademoiselle en la mariant au roi. Mazarin, ce qui n'est pas d'un grand politique, ne put jamais prendre sur lui de faire un plaisir à S. L'autre parti était difficile à cause de la résistance de la reine, témoin des répugnances de son fils. Le cardinal était maître de la femme. Il ne l'était pas de la mère et ne le fut jamais. Il eut recours à ses finasseries ordinaires, trouva des gens qui ne voulaient plus se payer de parole et s'aliéna définitivement le coadjuteur et mademoiselle. Celle-ci était devenue fort soupçonneuse depuis qu'elle s'occupait de politique. Donnant, donnant. La paix contre la couronne de France, Mazarin eut ainsi tout le monde contre lui. La noblesse et les parlements, la vieille fronde et la fronde des seigneurs. Pour comble d'imprudence, il prit part à la bataille de Rethel, 15 décembre 1650, gagné sur Turenne et ses troupes étrangères. Sa part de gloire fit peur. Elle menaçait de le rendre trop puissant. La crainte fit signer à ses ennemis un traité d'alliance qui avait été négocié, selon l'usage nouveau, par une femme sans autre mandat que les beaux yeux et son esprit. Anne de Gonzague, princesse palatine. L'exil du ministre et la liberté des princes en étaient les articles principaux. Mademoiselle avait approuvé ces 2 articles. Ses vues sur Louis XIV s'était compliqué soudain d'un nouveau projet de mariage. Elle s'était dit qu'à défaut du trône de France, il y avait une belle place à prendre, en réunissant par une alliance les 2 branches cadettes. Au lieu de faire le jeu de la royauté en combattant Monsieur le Prince, il était plus politique de l'épouser. Que Monsieur le Prince fût déjà marié, cela n'avait aucune importance. Sa femme, l'héroïne de Bordeaux, était si délicate qu'elle finirait bien par mourir. Le seul obstacle sérieux était l'opposition que ne manquerait pas de faire la cour à un dessein aussi dangereux pour l'autorité royale et la paix publique. Mais mademoiselle pensait qu'à eux deux, elle et le Condé, ils forceraient l'obstacle. Mazarin, se sentant ébranlé, était
quasi à genoux
devant elle et lui offrait le roi pour mari, pourvu qu'elle empêchât
son père de se joindre au prince de Condé.
La reine la suppliait au nom de leur ancienne amitié
d'adoucir monsieur envers monsieur le cardinal. »
Et lui laisser entendre qu'elle n'aurait rien à lui refuser en échange. Mademoiselle crève d'orgueil en racontant ces choses. Elle entrevoyait un avenir éclatant, pour la première fois et la dernière. Ce n'était pas un pur mirage. Son père était le chef reconnu de la coalition contre Mazarin. On n'avait pas obtenu sans peine son nom, au bas du trait d'union des deux frondes. Il n'aimait pas ce qui laisse des traces et peut un jour compromettre. On l'avait poursuivi le papier à la main, dans le Luxembourg, et il avait fini par être pris entre deux portes. On lui mit une plume dans la main, un chapeau servi de table, et il signa « comme il aurait signé la cédule du combat », dit un témoin. S'il avait eu peur d'être surpris par son bon ange. Quelques semaines plus tard, le Parlement réclamait la liberté des princes et l'éloignement du Premier ministre. Et mademoiselle assistait à une scène qui la transportait d'aise.
« J'avais dit, dit-elle, fait dessein de me coucher de bonne heure, m'étant levé fort matin, ce que je ne fis pas, car comme je me déshabillais, l'on vint me dire qu'il y avait grande rumeur dans la ville. La curiosité me prit d'aller sur une terrasse qui est aux Tuileries où je logeais. Elle regarde de plusieurs côtés. Il faisait leur beau clair de lune. Je vis au bout de la rue, à une barrière du côté de l'eau, des cavaliers qui gardaient la barrière pour favoriser la sortie de monsieur le cardinal par la porte de la conférence, contre lequel des bateliers s'étant mis à crier « Force valets, mes violons !» qui sont soldats, quoique ce ne soit pas leur métier, allèrent chasser les cavaliers de la barrière. Il y eut force coups tirés.
À la même heure, le palais royal était le théâtre d'une autre scène, à laquelle on ne saurait refuser d'avoir été dramatique. Mazarin allait fuir. La reine croyait le voir
« pour la dernière fois ».
Et ces deux êtres entre lesquels il y avait tant de choses qui auraient entente à se dire avant de se quitter, n'osaient pas se dérober à la surveillance des centaines d'yeux rivés sur eux. Ils se parlèrent longtemps devant le monde. Lui, incapable de cacher son trouble, elle, tranquille en apparence, mais très grave, et tout, jusqu'à leurs adieux, dut être dit à mots couverts et d'une voix indifférente. La porte refermée sur lui, Mazarin courut se déguiser en cavalier et sortit à pied du palais royal, 6 février. Apprenant qu'on se battait sur le quai, il tourna dans la rue de Richelieu et s'éloigna sans obstacle. On sait qu'avant de passer en Allemagne, il se rendit au Havre, où les princes étaient en prison, et qu'il remit ceux-ci en liberté. Le 15 février, Paris apprit que le Condé approchait et qu'il comptait souper le lendemain au Luxembourg. Les nouveaux projets de mademoiselle allaient dépendre de sa première entrevue avec monsieur le prince. Elle lui avait fait porter le rameau d'olivier dans sa prison et ignorait comment il l'avait reçu. Elle fut l'attendre au Luxembourg.
Les princes vinrent dans la chambre de madame, où j'étais, où, après l'avoir saluée, ils vinrent à moi et me firent 1000 compliments. Et monsieur le prince me témoigna en particulier avoir été bien aise lorsque Guitaut l'avait assuré du repentir que j'avais d'avoir tant d'aversion pour lui. Les compliments finis, nous nous avouâmes l'aversion que nous avions eue l'un pour l'autre. Il me confessa avoir été ravi lorsque j'avais eu la petite vérole, avoir souhaité avec passion que j'en fusse marqué et qu'il m'en restât quelques difformités et qu'enfin rien ne se pouvait ajouter à la haine qu'il avait pour moi. Je lui avouai d'avoir jamais eu joie pareille à celle de sa prison, que j'avais fort souhaité que cela t'arrivât, et que je ne pouvais songer à lui que pour lui souhaiter du mal. Cet éclaircissement dura assez longtemps, réjouit fort la compagnie et finit par beaucoup d'assurance, d'amitié de part et d'autre.
Pendant cet entretien, on entendait au dehors le vacarme d'une grande fête populaire. Les Parisiens s'étaient pris pour Condé de l'un de ces engouements dont ils sont coutumiers. Au palais royal, le peuple gardait les portes pour empêcher la régente d'enlever son fils une troisième fois et d'aller rejoindre Mazarin. Les frondeurs étaient les maîtres de Paris. C'était le moment de montrer qu'ils n'avaient pas fait courir de pareilles aventures à la France, sans avoir l'excuse d'un plan de réforme. D'un système quelconque, jugé par eux, à tort ou à raison, meilleur que l'ancien. Si quelques-uns eurent cette pensée, il faut avouer que l'on ne s'en aperçut pas. La notion de l'intérêt général se perdait dans notre pays, un peu comme aujourd'hui. On n'y connaissait de plus en plus que l'intérêt des gens en place, ou ayant de grandes situations, et c'était leur rivalité, leurs alliances, leurs efforts pour se supplanter, leur lutte pour le pouvoir ou la fortune, qui devenaient les événements publics de la France. Le Parlement voulait garder le monopole des réformes, et il se brouilla avec la noblesse dès qu'elle fit mine de les approuver. La noblesse, jalouse de la robe, s'adressait imprudemment aux passions populaires. Res ne pensait qu'à être cardinal, Condé qu'à devenir le premier dans l'État, Gaston qu'à tirer son épingle de tous les jeux, Madame de Longueville qu'à avoir d'autres aventures amusantes, et la régente, dirigée de loin par Mazarin, ne pensait qu'à les tromper tous et y réussissait généralement. Grâce à ce concours d'égoïsme et de fausseté, de paroles données et violées, l'automne de 1651 retrouva les Espagnols dans l'Est, la guerre civile dans l'Ouest, la cour à la poursuite des rebelles, la misère partout, et la grande mademoiselle en suspens pour son rétablissement. Au printemps, elle avait cru pendant 3 jours son mariage fait avec Condé.
Madame la princesse fut grièvement malade d'un érésipèle à la tête qui lui rentra et qui fit dire à beaucoup de gens que si elle mourait, je pourrais bien épouser monsieur le prince.
Mademoiselle s'ouvrit alors de son projet à l'un de ses plus fidèles serviteurs.
Les 3 jours que son extrémité de Madame la Princesse durera, ce fut le sujet de mon entretien avec Fontaine. Je n'en eusse point parlé à d'autres. Nous agitions toutes ces questions, et ce qui m'en donnait sujet, outre ce que j'en entendais dire, c'est que Monsieur le Prince me venait voir tous les jours. Mais la guérison de Madame la Princesse fit finir ce chapitre à l'instant. Et l'on n'y pensa plus.
Dans le courant de l'été, la princesse Palatine, qui ne doutait plus de rien depuis qu'elle avait conclu l'union des Frondes, lui fit offrir de la marier avec le roi avant la fin de septembre. Une autre politicienne, Madame de Choisy, lui exposait en ces termes les conditions du marché.
« Elle me dit, raconte mademoiselle, la princesse Palatine est gueuse. Ainsi, il faut que vous lui promettiez 300 000 écus. Si elle fait réussir votre affaire, je dirai oui à tout. Et moi,
reprenez Madame de Choisy,
je veux bien que mon mari soit votre chancelier. Nous passerons si bien le temps, car la Palatine sera votre surintendante avec 20 000 écus d'appointement. Elle vendra toutes les charges de votre maison. Ainsi, jugez de l'infaillibilité de votre affaire, pour le grand intérêt qu'elle y aura. Nous aurons tous les jours la comédie au Louvre, elle gouvernera le roi. l'on peut juger quel charme c'était pour moi de me proposer une telle dépendance, comme le plus grand plaisir du monde. »
Sans aller jusqu'à dire non, mademoiselle, à la réflexion, cessait de dire oui à tout, pour une raison parfaitement folle. Elle s'était mis dans la cervelle que le petit Louis XIV devenait amoureux de la grande cousine qui paraissait si vieille à ses 13 ans et dont les brusqueries, les emportements, le faisaient rentrer dans sa coquille d'enfant timide. Elle était si sûre de son fait qu'elle laissa tomber dans l'eau
la négociation de Madame de Choisy
pour s'en remettre au cœur du roi.
« Et cette voie d'être reine,
ajoute-t-elle injuriément,
m'aura beaucoup plus plu que l'autre. »
Cela se comprend, mais il n'arriva rien, sinon qu'Anne d'Autriche jurait devant sa nièce de lui donner le roi. Et disait derrière son dé,
« Ce n'est pas pour son nez. » Quoi qu'il soit bien grand. »
Mazarin n'aurait pas vu de mauvais œil, en ce qui lui concernait, un mariage qui aurait remis la division entre les deux branches cadettes.
« On m'avait fait savoir de divers endroits,
écrivait-il à la reine,
qu'avec le mariage de mademoiselle avec le roi, tout serait accommodé. Bleu Tellier est venu exprès me trouver de la part de Ress et de la princesse Palatine. Pour cela, et d'autres m'en ont écrit, mais si le roi et la reine ont les mêmes sentiments qu'ils avaient là-dessus, je ne crois pas que ce soit une affaire facile. »
7 janvier 1652. Il n'osait pas insister, ne se sentant plus en situation d'exiger de la reine ce qui lui déplaisait. Tandis que le Parlement rendait arrêt sur arrêt contre lui, on travaillait autour de la reine à le faire oublier. Et l'on y réussissait. On occupait l'imagination d'Anne d'Autriche, avec d'autres amis dont la pensée dévorait le cardinal de jalousie dans sa retraite de Brûle.
Je voudrais vous pouvoir exprimer la haine que j'ai contre ces indiscrets qui travaillent sans relâche pour faire que vous m'oubliez et que nous ne nous voyons plus. »
Le 6 juillet, il a su que Lyon se vantait de ne pas déplaire à la reine.
Si on pouvait me faire croire une chose semblable, ou j'en mourrais de déplaisir, ou je m'en irais au bout du monde. Si vous voyez l'état où je suis, je vous ferai pitié. Et il y a de petites choses qui me tourmentent au dernier point. Par exemple, je sais que vous avez dit plusieurs fois à Lyon pourquoi il ne prenait pas les chambres du cardinal, lui témoignant tendresse de ce qu'il se mouillait en passant la cour. Cela m'a fait perdre le sommeil 2 nuits de suite. »
Il lui parle de son amour en termes passionnés.
Il se meurt.
Pour elle, sa seule joie est de lire et relit ses lettres. Et il pleure des larmes de sang. Lorsqu'elles sont froides, bien qu'il ne soit au pouvoir de personne de rompre le lien qui les unit. Nous n'avons pas les réponses de la reine, mais nous savons qu'elle lui fit écrire vers le 1er septembre qu'il devait s'en aller à Rome et qu'elle fit signer au roi, 2 ou 3 semaines plus tard, une déclaration qui arracha à Mazarin une lettre pathétique. 26 septembre.
« J'ai pris 10 fois la plume pour vous écrire, sans l'avoir pu, et je suis si hors de moi du coup mortel que je viens de recevoir que je ne sais pas du tout si tout ce que je vous pourrais dire aura ni rime ni raison. Le roi et la reine, par un acte authentique, m'ont déclaré un traître, un voleur public, un insuffisant et l'ennemi du repos de la chrétienté. Cette déclaration court déjà par toute l'Europe. » Et le plus zélé des ministres qui ait jamais été passé à présent pour un scélérat, un infâme. Il n'est plus question ni de bien, ni de repos, ni de quoi que ce puisse être. Je demande l'honneur qu'on m'a ôté et qu'on me laisse en chemise renonçant de très bon cœur au cardinalat et aux bénéfices.
Il était clair que le temps pressait. Mazarin fit flèche de tout bois, leva une année et rentra en France. À mesure qu'il se rapprochait de Poitiers, où était alors la cour, on voit à travers ses lettres que celle de la reine redevenait tendre. Le jour de son arrivée, 30 janvier 1652, Anne d'Autriche l'attendit une heure entière à sa fenêtre.